Vous écoutez RFI, Radio France Internationale. Merci de votre fidélité. Il est 7h30 à Paris, 6h30 à Cotonou, 5h30 temps universel.
RFI Matin.
Et le journal avec Fabien Albert. Bonjour Fabien.
Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Les opérations continuent. Au Bénin, un bateau s'est échoué ce week-end avec des tonnes de gasoil à son bord. Motopompes et camions-citernes tentent de le vider avant qu'il ne contamine une des plages les plus fréquentées de Cotonou, la capitale. En République démocratique du Congo, les habitants de l'Est tentent de fuir l'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Des centaines de milliers d'entre eux prennent la route de l'exil. Le point sur la situation humanitaire avec le coordonnateur de l'ONU dans la région. Faut-il se présenter face au super-président Kais Saied ou organiser un boycott? C'est la question que se posent certains partis d'opposition en Tunisie. La présidentielle aura lieu le 6 octobre prochain. Dans ce journal également, les relations tendues entre la Banque mondiale et le Gabon. L'institution monétaire reproche à Libreville d'avoir tardé à payer sa dette. Et puis, focus sur la 10e circonscription des Français de l'étranger qui concerne l'Afrique australe à 4 jours des élections législatives en France. Course contre la montre pour éviter une marée noire au Bénin. Depuis ce week-end, les autorités béninoises redoutent la pollution des eaux et se mobilisent. Un bateau battant en pavillon nigérian s'est échoué à quelques mètres d'une plage de Cotonou très fréquentée. Il transporte ce bateau des tonnes de gasoil, des motopompes, des camions-citernes sont en train de le vider. Le préfet maritime, le contre-amiral Maxime Aoyo, a fait un point de l'incident à la presse ce mercredi. Des premières mesures ont été prises, Jean-Luc Aplogan.
L'urgence est d'éviter toute pollution, a indiqué le préfet maritime. Le navire a échoué dans la nuit de samedi à dimanche sur les côtes béninoises après avoir cassé son ancre. À son bord, plus de 200 000 litres de gasoil. Première mesure prise, le lancement des opérations de pompage, très laborieuses au début. Elles sont en cours et les autorités espèrent qu'elles se terminent au plus tard vendredi. Autre mesure, l'interdiction de la baignade. Des prélèvements d'eau ont été faits et sont en cours d'analyse selon le préfet maritime, le contre-amiral Maxime.
Nous attendons les résultats pour statuer sur les risques potentiels pour les populations, pour les produits halieutiques. Les résultats de cette analyse-là sont très importants pour savoir s'il y a des mesures supplémentaires à prendre.
Les premiers jours, tout curieux qui approchait était accueilli par une forte odeur de gasoil. Elle s'est estompée aujourd'hui, selon lui. À propos du bateau, les premières auditions et enquêtes concluent qu'il est louche.
Les activités dans les eaux nigériennes étaient inconnues. Ils avaient été observés en mode obscur, c'est-à-dire menant des activités illicites.
Le capitaine du bateau aurait même menti sur son itinéraire. Tout l'équipage, 15 Nigériens et un Béninois, sont aux mains de la brigade criminelle. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Enfin, dernière mesure prise, l'interdiction de la pêche dans la zone. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda gagnent du terrain à l'est, au nord Kivu, après avoir pris vendredi dernier la ville de Kanyabayonga, qui se trouve à 150 km au nord de Goma. Les rebelles continuent d'avancer sur cet axe routier qui mène vers le nord de la province et l'importante ville commerciale de Butembo. Les habitants tentent donc de fuir leur arrivée, une avancée qui provoque d'importants déplacements de population et des besoins humanitaires énormes. C'est ce que déplore le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC, Bruno Lemarquis. Il est joint par Alexandra Branjon.
Il y a maintenant à peu près 500 000 de personnes déplacées dans le territoire de Lubero et les pourcentages parlent mieux. Au nord Kivu, plus de 30% de la population de la province est déplacée, ce qui fait à peu près 2,8 millions de personnes. Au sud Kivu, où il y a aussi des afflux de déplacés du fait des avancées du M23, il y a plus de 20% de la population du sud Kivu qui est déplacée. Et dans la province de l'Ituri, donc au nord-est de la République démocratique du Congo, 40% de la population est déplacée. Donc c'est vraiment énorme. De manière plus générale, on a récemment passé, il y a quelques semaines, le cap des 7 millions de personnes déplacées internes en RDC. C'est le deuxième pays au monde pour le nombre de personnes déplacées internes après le Soudan. Donc c'est vraiment un chiffre affolant. Les besoins humanitaires sont en conséquence gigantesques et continuent à chaque fois à s'agrandir. La réponse humanitaire fait ce qu'elle peut, mais il y a vraiment beaucoup de défis auxquels on fait face, des défis d'accès, des défis de sécurité et également, il faut le mentionner, des défis de financement.
Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC, joint par Alexandra Branjon. Et face à cette avancée ces derniers jours des rebelles, la justice congolaise s'est montrée intraitable. Hier, à peine arrêtés, 25 militaires ont été jugés en comparution immédiate et condamnés à mort. Ils comparaissaient en flagrance devant le tribunal militaire de garnison de Boutembo dans le Nord Kivu pour fuite devant l'ennemi, dissipation de munitions de guerre, vol ou encore violation des consignes lors des récents combats contre les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Arrêtés ce mercredi donc, ils ont été jugés le jour même en audience foraine près de la ligne de front dans le village d'Alibongo. Les avocats de la défense ont décidé de faire appel de ces condamnations. Au total, 31 prévenus, 27 militaires et 4 épouses de militaires ont comparu dans ce procès. Faut-il y aller ou non? C'est la question qui se pose actuellement au parti d'opposition en Tunisie. Mardi soir, le président tunisien Kais Saied a annoncé que le premier tour de l'élection présidentielle aurait lieu le 6 octobre. Arrivé au pouvoir en 2019 par un coup de force, le chef de l'État est accusé de dérives autoritaires depuis 3 ans. Les principales forces d'opposition sont en prison. Les formations politiques pèsent le pour et le contre sur l'intérêt de leur participation. Mathieu Galtier.
Pour le Front du Salut National, c'est non. La principale coalition d'opposition, qui va des islamistes au centre-gauche, refuse de participer à un scrutin faussé, explique son président Ahmed Nejib Chebbi.
Le Front du Salut National a estimé que les conditions d'une compétition normale ne sont pas réunies. Le Front ne soutiendra aucune candidature, ni en son sein, ni en dehors, parce que c'est participer à un simulacre électoral.
À l'autre bout du spectre politique, le parti d'Estourien Libre, où convergent de nombreux nostalgiques du régime de Ben Ali, pourrait être tenté par un coup d'éclat et présenter sa dirigeante, Abir Moussi, en prison depuis l'automne dernier. Le parti annoncera sa position vendredi. Pour le politologue Atem Nafti, une certitude, la campagne électorale ne sera pas impartiale.
Nous avons une instance électorale qui est aux ordres, nommée par le président de la République. Nous avons des médias aussi qui sont de plus en plus sous pression, un climat de terreur. Dans toutes ces conditions, je vois pas du tout comment on peut parler d'un scrutin serein dans lequel il y aurait un véritable débat public.
L'instance électorale doit détailler ce jeudi le déroulé de la campagne électorale. Mathieu Galtier, Tunis, RFI.
En bref, au Mali, au moins 21 personnes ont été tuées à Djigimbombo, dans le centre du pays, dans la région de Bandiagara. D'autres personnes sont portées disparues. L'attaque est survenue lundi en fin d'après-midi lors d'un mariage. Elle est attribuée au JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. 2 semaines après l'explosion d'un dépôt de munitions à N'Djamena, les opérations de déminage touchent à leur fin. Selon le génie militaire qui dirige le processus, 95% de la capitale tchadienne est à présent sécurisée. L'explosion a fait 10 morts et 161 blessés le 18 juin dernier. Le coût des réparations a été estimé à plus de 11 millions d'euros par le gouvernement. La Banque mondiale durcit le ton avec le Gabon. Dans une note datée du 1er juillet dernier, l'institution monétaire annonce la suspension des décaissements auprès du Gabon. La Banque mondiale reproche à Libreville d'avoir cumulé plusieurs mois d'arriérés de paiement de sa dette. Si le gouvernement reconnaît n'avoir pas payé à temps, il parle de simples problèmes techniques, des problèmes qui ont déjà été réglés selon Libreville. Les précisions d'Yves Laurent Gomard.
L'information a été rendue publique dans une note écrite du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui a fuité ce mercredi sur les réseaux sociaux. Ousmane Diagana, qui avait séjourné début mai au Gabon, où il avait rencontré les principaux dirigeants de la transition, dont le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le texte précise qu'au 30 juin dernier, le Gabon a accumulé des arriérés d'une valeur d'environ 10 milliards de francs CFA, d'où la suspension. Plusieurs projets en cours pourraient être pénalisés. Il s'agit entre autres des projets de modernisation des villes à travers la construction des routes en pavé, la formation des jeunes dans les métiers technique ou encore le projet iGabon qui vise à numériser l'administration gabonaise. Dans un communiqué mercredi soir, le gouvernement a expliqué que le non-versement de ces arriérés est dû à des problèmes techniques. Le ministère des Comptes publics soutient que le Trésor public gabonais a déjà procédé au paiement de ces arriérés. Yves Laurent Goma, Libreville. RFI.
Une page législative en France pour terminer avec le duel annoncé dans la 10e circonscription des Français de l'étranger. 4 jours avant le second tour, les Français établis à l'étranger peuvent déjà voter sur Internet depuis hier midi et jusqu'à ce soir, 18h. C'est le cas donc dans la 10e circonscription qui va de l'Afrique australe au Moyen-Orient en passant par la région des Grands Lacs et Madagascar. Le duel entre la candidate du Nouveau Front Populaire Elsa Di Meo et la députée sortante de la majorité présidentielle Amélia Lacraffi s'annonce serrée. RFI vous propose d'écouter leur profession de foi en commençant par celle d'Elsa Di Meo, arrivée en tête lors du premier tour avec 32% des voix.
Je suis la seule candidate qui est réellement installée hors de France. Je réside depuis plus de 2 ans au Cameroun, après avoir résidé pendant près de 8 ans en Afrique de l'Ouest. J'ai dit clairement que je souhaitais proposer une loi rectificative qui permettent d'avoir plus de moyens pour les Français, à la fois dans les aides sociales à l'étranger, à la fois dans le réseau d'éducation français à l'étranger, pour augmenter les différents postes de profs au sein du réseau AEFE. J'ai une proposition qui permettra de recréer un sentiment de communauté nationale de nos Français installés sur les 49 pays de la circonscription. J'ai proposé, dès mon élection, de mettre en place une application disponible pour tous nos concitoyens installés hors de France pour faire le lien permanent et régulier avec la députée de proximité que je serai.
Députée depuis 2017, Amélia Lacraffi, elle, est candidate à sa réélection dans cette 10e circonscription des Français de l'étranger. Candidate de la majorité présidentielle, elle a obtenu 31% des voix dimanche dernier.
Ce qui compte le plus pour nos compatriotes, c'est, je pense, l'accès aux services consulaires. Parce que quand on est à 10 000 km, c'est très compliqué quand on a un souci du quotidien qu'on n'arrive pas à régler. Donc c'est toute cette facilité administrative qu'on a commencé et qu'on va continuer pour simplifier la vie. Le texte de loi pour lequel j'étais responsable de texte il y a un mois aujourd'hui, la dématérialisation de l'état civil, va faire que l'état civil ne prendra plus de temps à nos agents, que nos compatriotes pourront faire en ligne tout leur état civil, donc renouvellement de passeport. Et le temps libéré pour nos agents sera du temps pour l'accueil de nos compatriotes, parce qu'aujourd'hui, les plaintes qui arrivent en masse, c'est « je n'ai pas accès au consulat, je n'ai pas de rendez-vous pour le consulat », que ce soit pour faire un visa à un conjoint ou pour renouveler un passeport. Et ça, c'est très handicapant pour nos compatriotes à l'étranger.
Des propos recueillis par Guilhem Fabry. Et puis l'actualité en France, c'est aussi la mort de Roland Dumas hier à 101 ans. Résistant, avocat, homme politique, proche de l'ancien président François Mitterrand, l'ancien ministre avait noué des liens forts et controversés avec le continent avant d'être rattrapé par le scandale de l'affaire Elf. En 2010, il s'était rendu à Abidjan en pleine crise post-électorale pour soutenir Laurent Gbagbo. Un an plus tard, Roland Dumas défendra avec la même virulence le colonel Kadhafi en Libye. Son portrait complet est à retrouver sur notre site www.rfi.fr. RFI Matin continue tout de suite avec vous, Arnaud Pontus.
Merci Fabien Albert, à tout à l'heure.